Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbare à enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous ne mettions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rute. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000. Travaille dans une banque du centre-ville et tu l'auras compris, le bureau de monsieur n'est pas au rez-de-chaussée, le bureau de monsieur est en hauteur. Costume sur mesure, 4000. Il en impose dans les couloirs, parfaitement corporate. Un bel exemple de réussite.
Sébastien et Pierre-Marie dans le studio de Radio G. On aura aussi un invité au téléphone. Est-ce que tu peux nous le présenter tout de suite, Sébastien ?
Oui, ça sera Voyageur solitaire, donc pour un roman interactif.
Donne-nous le titre quand même.
Les tambours de Chamanka.
Tu nous en avais déjà parlé dans une émission précédente. Il a été primé, non ?
Oui, il est concours au prix du livre-jeu, donc 2022. Il a été primé numériquement en 2016.
D'accord, ok. Et toi, Pierre-Marie, tu reviens des Utopiales ?
Alors, je ne suis pas seul à être revenu des Utopiales, mais effectivement...
Dans le studio, oui, tu es le seul à y être.
Nous y sommes allés, l'association y est allée.
Il faut que tu parles vraiment très près des micros. On a changé, tu sais, de matériel un petit peu Radio G, et là, ils sont...
Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. Et donc, je disais, nous sommes quatre de l'association à y être allés, donc je vais faire un petit topo sur les Utopiales, qui est quand même le plus gros salon de science-fiction de France, voire même francophone. 140 tables rondes, 110 000 visiteurs. Non, c'était quand même pas mal. Et je reviens avec un livre dont je vais vous parler un petit peu, qui s'appelle Dimir de Rich Larson, traduit par Pierre-Paul Durastantier aux éditions du Bélial. Et j'ai eu la chance de pouvoir interviewer son auteur, Rich Larson.
Ok, donc vous êtes revenu avec une dizaine d'interviews, il me semble.
Exactement, et notamment pas mal d'anglophones, puisque nous avons trois interviews en anglais que nous allons pouvoir faire passer sur les ondes, des personnes qu'on ne reverra pas de sitôt en France.
Et attends, on aura la traduction ou...
Oui, bah, oui bien sûr.
Oh. Ok.
Donc, y a on t'avait pas prévenu, ça serait toi qui ferais la traduction.
Bah, si c'est en anglais encore, hein, ça peut passer. Bon, et ben, avant de que tu nous parles de ça, on va s'écouter un morceau. Alors, je fonctionne un petit peu à l'aveugle parce que voilà, on va voir si c'est ça. Je voulais vous passer un morceau de Villa Fantôme, les ex Ruda Salska, qui seront en concert au Jokers dans un mois. Mais du coup, on a le temps. Entre temps, j'ai un pote qui m'a partagé un truc rigolo sur Facebook. Et voilà, on va essayer de se caler ça. Est-ce que c'est ça ? Pas du tout. Non, mais ne danse pas tout de suite. Ça, c'est le morceau que je voulais passer en fin d'émission.
C'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Bon, ben, on va tous les faire. Il me les met pas dans l'ordre. Super. Ah, c'est pas ça non plus. Là, Lilou, Lilou. Ça, ça c'était moi. Générique. Non, mais ils sont. Ah, bah voilà. Ah, voilà. Enfin. Ah, bah, voilà, vous avez reconnu. Hein. Oula, le truc, il passe en avance rapide en plus en même temps. Ah, j'hallucine. Ah non. Bon, allez les mecs, bah c'est, vous allez me la chanter, vous avez reconnu un petit peu, c'était un oui, mashup.
Absolument pas, je ne sais pas de quoi il s'agit.
Très mais bien, toi, t'es bien. Trop jeune, c'est deux morceaux des années 80 qui sont mélangés. Et donc, on avait un morceau, bon alors c'est déjà Metallica, hein, vous avez reconnu One. Et puis l'autre, c'est un petit peu plus pointu, c'est... oh, comment ça s'appelait groupe de rock australien, pop rock, merde, Men at Work, avec un des rares tubes, je pense, qu'ils ont fait en France. On change de platine et on se la retente, parce que là, le truc me passe les pistes au hasard et en avance rapide. J'avoue que je suis un petit peu décontenancé et j'espère que ça va aller mieux. Alors, voilà, il faut la trouver. Oui.
Ben, en fait, pendant que tu fais ça, moi, je propose de faire mon rendu sur les utopiales.
Non, attends, ça y est, je l'ai là. Écoutez-moi ça.
Oh non.
Ça marche.
Moi, j'étais chaud là.
Putain, attends, mais là, si j'essaye ça, c'est mieux?
Ben, je sais pas.
Oh, catastrophe, quoi. Non, attends, là, on va essayer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, il faut savoir compter dans le studio de Radio G. Hop, là, il y a de la musique. Et là. Ah bah ben, voilà. Que ça merdouille complètement. Bon bah les gars, il va falloir chanter toutes les chansons ce soir parce que ça c'est ouais, ok, super. Le truc zappe complètement, je vais pas aller la chercher sur YouTube et tout. Bon, j'espère que les autres morceaux vont passer. Hein. Allez Pierre-Marie, tu peux nous faire ton compte-rendu sur les utos.
Alors on va parler des utopiales et surtout on va parler des chiffres sur les utopiales puisque comme je vous l'avais dit, c'est un salon de science. Je vous ai évoqué 110 000 festivaliers. Ce qui est quand même pas mal, mais nettement ouais. Moins qu'en 2019. Et bah oui, ils ont mis des jauges avec des réservations, donc forcément, il y a moins de personnes qui rentrent.
Il y en avait encore cette année des réservations, il fallait réserver.
Tout est gratuit, mais c'est sur réservation pour éviter qu'il y ait trop de personnes dans les salles.
D'accord.
On parle de 230 intervenants différents, 140 tables rondes et conférences. Autrement dit, vous ne pouvez pas tout faire, mais heureusement, ActuSF les a tout enregistrés, au moins les pistes audio, et vous pouvez les retrouver sur ActuSF.
Ouais, j'ai vu qu'il y avait un site aussi, on peut en revoir pas mal en vidéo, je m'en rappelle plus, idée de science, quelque chose comme ça.
60 séances de cinéma, dont l'avant-première pour Maurice et les Rongeurs Savants, la nouvelle adaptation de Terry Pratchett.
Ah ouais, bon, c'était bien.
Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu.
T'as pas eu le temps d'aller voir une seule des 60 séances.
Excuse-moi, j'étais en train de faire des interviews de personnes absolument extraordinaires, dont je vous parlerai. Nous avons aussi 9 expositions artistiques et science-fiction. Et science-fiction, non, scientifique.
Attention, je change de layer. On t'entend toujours.
Au nombre de celles-ci, l'INRA était présente et le CEA était présent pour pouvoir faire une présentation sur leurs travaux. L'INRA, c'est l'Institut National pour l'Agronomie.
Institut national de recherche en agroalimentaire.
Agroalimentaire, c'est ça, exactement. Et le CEA, c'est la Commission pour l'énergie atomique. Mm. Il y avait aussi, j'ai appris ça, que l'un des télescopes du nouveau satellite Weber, qui se balade actuellement dans l'espace, avait été construit à Nantes. Et donc l'entreprise qui avait créé ce télescope proposait des séances de réalité virtuelle pour marcher, notamment sur Mars, mais aussi dans l'espace, au milieu des photos qui ont été prises.
Ok. T'as eu le temps de le faire, ça ?
J'ai eu le temps de faire pas mal de choses, mais pas ça. Tout ce qui était sur réservation, j'ai pas pu le faire. L'affiche était réalisée par Marc-Antoine Mathieu,
oui,
artiste angevin.
Ouais, local.
Un petit peu particulier, puisqu'il aime jouer sur les sens et sur la géométrie, la géographie, le repérage dans l'espace. Et d'ailleurs, une de ses expositions était dans tous les utopiales. Alors, quand je vous parle de tous les utopiales, c'est 7000 mètres carrés d'exposition.
Donc c'était que dans le centre des congrès ou il y avait des trucs un peu ailleurs ?
Que dans le centre des congrès. D'accord. Et en fait, il y avait toute une exposition. En fait, il y avait un parcours fléché qui permettait de découvrir morceau par morceau toute son œuvre.
Il y avait une expo de Marc-Antoine Mathieu au théâtre à Angers il y a quelques années. Je ne sais pas si vous l'avez faite.
Tout à fait.
Il y avait une partie numérique, enfin réalité virtuelle, avec un casque et j'avais trouvé ça hyper, hyper flippant. c'était que des carrés blancs à portée de vue de tous les côtés de l'horizon. Moi, ça m'avait un petit peu démoralisé.
Est-ce qu'on parle des prix littéraires ?
Ben oui, quand même.
Alors, les prix littéraires, enfin, d'ailleurs, pas que les prix littéraires, les prix tout court.
Ouais.
Puisqu'il a été décidé depuis le Covid qu'en fait, les prix étaient annoncés lors de la conférence de presse. Donc, on les avait déjà en amont du salon, du festival, même si la remise de prix était faite pendant le festival. Le prix extraordinaire des Utopiales, donc c'est un prix qui est donné à quelqu'un pour la totalité de son œuvre liée à l'imaginaire science-fiction et scientifique, va à Jean-Pierre Dionnet.
Quelqu'un qu'on croit souvent là-bas.
Assez régulièrement, ouais. Effectivement. Je me souviens d'une scène de catch avec Schwarzenegger, retransmise, parce que moi, j'étais pas né quand ça s'était passé, mais c'était il y a très, très, très...
Il a catché, lui, avec Schwarzenegger ?
Ah ouais, et il n'a pas gagné.
Ouais, c'est bien ce que je pensais.
Dans les prix littéraires, le prix Utopial va aux Oubliés de l'Ama de Florian Soulas, un livre, si jamais je ne vous en ai pas parlé, réécoutez nos émissions, je pense que j'en ai parlé au moins une dizaine de fois de ce roman.
Ouais, c'était pas Jean-Hugues qui l'avait chroniqué plutôt, mais...
Non, c'est moi.
Non, c'est okay. Pierre-Marie.
Tu le dis si jamais je t'embête et que tu m'oublies. Le prix Utopial Jeunesse va à la troisième exode de Daniel Matt, édition Scrineo, qui a aussi été chroniqué, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Le prix Utopial BD va à René au bois dormant, d'Hélène Usdin, aux éditions Sarbacane. On est plutôt sur un album que sur une BD. La mention spéciale du jury pour le prix BD va au Grand Vide, de Léa Muraviec. Le prix du meilleur scénario de jeu de rôle va à Blue Fighters, de Ben Perrault, dans l'univers de jeu Chronique oubliée.
Et donc ça, c'est des scénarios qui sont écrits c'est peu en direct, hein, pendant le festival, si
c'est
je me rappelle bien.
C'est ça, qui sont écrits en direct. Alors, il faut donner dans quel type de jeu, dans quel univers tu vas jouer. Et puis, il faut que tu crées ton scénario et que tu le fasses jouer. Mmh. Et du coup, c'est lui qui a remporté le meilleur scénario. Pour les prix du cinéma, le prix du jury va à Viking, de Stéphane Lafleur. La mention spéciale du jury va à Unicorn Wars, d'Alberto Vasquez. C'est un film d'animation. Le prix du public va à Maurice le chat fabuleux. Donc c'est l'adaptation de Pratchett. Pour le court-métrage, le prix du jury va à Finito, de Patrick Eklund. Désolé pour son nom, il est suédois. La mention spéciale du jury va à New Babylon, de Gideon van der Stelt. Le prix Canal Plus va de nouveau à Finito, de Patrick Eklund. Et le prix du public va à Finito, de Patrick Eklund. Je vous conseille donc d'aller voir ce Finito.
Ben, est-ce qu'on peut le voir déjà? Parce que bon, c'est pas parce que c'est passé en festival qu'on peut le voir gratuitement. Enfin, je sais pas.
Ça doit pouvoir se trouver. Maintenant, tout est disponible sur Internet.
Ouais.
Et ben voilà. Est-ce que vous voulez qu'on vous parle plus précisément de ce qu'a fait Imaginaire ou
pas? T'as donné le prix Julia Verlanger?
Ah non, j'ai pas donné le prix Julia Verlanger, hein. Effectivement, il n'est pas indiqué dedans, alors je suis un peu déçu.
Mais oui, moi aussi, j'ai du mal à le trouver.
Alors, le prix Julia Verlanger va à Philemon Jelly Clark.
Que vous avez interviewé.
Qu'on a interviewé, qui est un auteur américain sur un livre qui est une uchronie américaine, sur l'histoire de l'Amérique. Et d'ailleurs, il est important de noter, donc là, on sort des Utopiales et on va au prix de l'uchronie ActuSF. Ce roman a aussi récupéré le prix Uchronie ActuSF international, donc pour une uchronie américaine, sachant que le prix de la littérature française Uchronie ActuSF va au temps ultramoderne de Laurent Genefort.
Ok, donc le prix ActuSF, c'est donné par qui en fait?
C'est un groupe de 5 personnes qui sont en lien avec ActuSF, et alors par contre la spécificité de ce prix, c'est qu'il ne récompense que les uchronies.
Right.
Dedans, tu as Bertrand Campéris, Étienne Barrier, Hermine Aymond, qui sont des spécialistes de l'uchronie et du steampunk.
D'accord. Et
alors, j'ai une question, excusez-moi, j'ai pris un petit temps, c'est que nous avons notre admiratrice la plus assidue qui nous écrit et qui nous envoie des messages pour nous dire qu'elle veut absolument avoir certaines informations. Et donc je vous lis ce message, c'est « Mais qu'est-ce qu'a pu bien foutre Imaginaire aux Utopias. Là. Donc je vais peut-être pouvoir lui répondre en direct.
Boire des coups, à mon avis.
Alors, mais pas tant que ça. J'ai été très étonné par rapport aux précédentes années. On n'a pas bu tant que ça, même si effectivement...
Au bar de Madame Spock, c'est toujours.
Le point de ralliement était effectivement le bar de Madame Spock, qui nous accueille chaleureusement à un prix défiant toute concurrence pour de la bière. Et bien, Imaginaire était sous l'affiche Radio G pour réaliser des interviews, à la fois des interviews que nous aurions souhaitées, et puis des interviews qui étaient proposées par des maisons d'édition. Nous avons ainsi pu interviewer Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, sur l'Anomalie. Nous avons pu interviewer Philemon Jelly Clark, en auteur américain, Rich Larson, en auteur canadien, Laura Lam, en auteur anglaise.
Rich Larson, dont tu vas nous faire une chronique peut-être
exactement.
En fin d'émission.
Alors, il y a des anecdotes sur le pourquoi de l'interview est assez lunaire. La soirée était très intéressante le lundi soir. Et il y a eu une compétition entre certaines personnes, dont Rich Larson, qui a été de se taper une brasse coulée dans la Loire, à Nantes, à 4h du matin. Attends. Du coup, pour l'interview de 10h, il n'était pas très très frais. Mais bon, nous avons fait une dizaine d'interviews parmi celles-ci. Alexander Weinstein, dont son dernier livre, After Young, a été adapté au cinéma avec Colin Farrell dans le rôle titre, auteur américain. On a réussi à récupérer David Brie, Zariel, Karim Berouka, que des potes à qui on a pu enfin donner le micro pour qu'ils nous parlent un petit peu de
leur nouveauté.
Et puis de ce qui les pousse à écrire, surtout.
Ok.
Donc non, c'était très intéressant. Effectivement, nous avons beaucoup bu, mais plus du café que de l'alcool.
Ah.
Nous avons sympathisé et raffamé les sympathies que nous avions avec diverses maisons d'édition. Nous avons testé des prototypes de jeux de société que nous espérons pouvoir vous présenter au Dysard. Et puis voilà, ça a été 4 jours bien remplis et on a été très contents de retrouver nos couettes et nos oreillers après ça.
Bon, et ben merci Pierre-Marie. En attendant notre coup de fil à Voyageur Stellaire.
Solitaire.
On verra peut-être pour son prochain. Je vais essayer de repasser ce mash-up là que je vous ai trouvé. Enfin, j'ai changé de technique, on va voir si ça marche. Non. Le truc est toujours complètement foiré. Ok, merci, clé USB maudite. Peut-être qu'en essayant comme ça, on va voir si ça marche. Eh ouais, c'est mieux. Faut vous raconter de la musique aujourd'hui.
Oh, please.
ça valait le coup quand même d'essayer 4 platines et 12 clés USB pour pouvoir entendre ce mashup de Man At Work et Metallica. Je ne sais même plus comment s'appelle le monsieur qui fait ça sur Internet, mais en tout cas, il est très suivi. Bon, on n'a pas de nouvelles du voyageur solitaire. Donc Pierre-Marie, tu vas nous parler du roman de Rich Larson.
Alors, deux choses. D'abord, ça ressemble particulièrement à une punition de me faire parler comme ça aussi longtemps à la suite, pour les auditeurs, hein, pas pour moi. Et ensuite, non, je refuse de faire ma chronique.
Ok.
T'as pas passé mon jingle.
Ah, bah, mais tu m'en demandes beaucoup, là. Est-ce qu'on l'a amené avec nous au moins ce soir ? Ouais, il est par là, mais le temps que ça arrive, hein, tu sais. Peut-être allumer la webcam dans le studio pour te voir danser sur ton générique.
Personne n'a envie de voir ça, sache-le. Tout de suite, je suis beaucoup plus joyeux et avec beaucoup d'entrain pour faire cette chronique puisque mon jingle va parfaitement avec ce bouquin, Ymir. Est-ce que vous savez ce qu'est Ymir ?
Pas du tout. Ça s'écrit comment ?
Y-M-I-R. Alors, Ymir, ce sont deux choses. D'abord, c'est le nom de la rune qui ressemble au Y, donc la première rune chez les Scandinaves, c'est le nom de la lettre. De la rune, puisque les runes sont à la fois porteuses de sens et des lettres. Et puis Ymir, c'est aussi le nom d'une déité chez les Nordiques. C'est l'être qui est le père des géants à Jotunheim. Pourquoi est-ce que c'est important pour ce roman-là ? C'est parce que Ymir est un monde de glace. Ymir, dans sa construction de l'univers, en fait, ce sont des planètes qui représentent les 9 terres sur lesquelles la cosmogonie nordique repose, avec Midgar, avec Asgard, etc. Et donc, on va passer son temps sur Ymir. Tout le roman va se passer sur Ymir. Ymir, c'est un monde de glace, c'est ce que je vous ai dit. Il est dans la description, dans ce que le personnage vit, il n'est que violence et que douleur. C'est vraiment un monde sur lequel vous n'avez pas envie d'aller. Sauf que la conquête de tout l'univers fait par les humains dans ce roman-là, c'est fait et Ymir a été colonisé, mais il n'y avait pas de ressources dessus, donc on a un peu laissé les colons à l'abandon et les corps se sont adaptés à l'environnement glacé et dévastateur. Et puis, avec les nouveaux scanners, on s'est rendu compte qu'aussi, il y avait quand même des ressources et donc il y a eu une deuxième colonisation de cette planète-là. Et les nouveaux, les outre-mondiens, ceux qui viennent d'ailleurs que Ymir, ont rencontré cette population qui était devenue des sang-froid, à la peau un peu bleutée, aux yeux noirs pour s'adapter. Ça ne s'est pas trop mal passé. Bon, comme partout, dès qu'il y a une colonisation industrielle, les populations qui sont déjà présentes, qui sont donc les populations autochtones, ne sont pas forcément super contentes. Mais ça s'est bien passé. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Yorick, qui est parti de cette planète-là suite à un souci et qui est devenu un chasseur de Grendel. Les Grendel, ce sont des monstres qu'on retrouve aussi dans la mythologie nordique qui sont à mi-chemin entre les lutins et les démons qui se cachent.
Quand même, il y a de la marge.
Il y a de la marge, mais la mythologie nordique n'est pas basée sur le bien et le mal. Elle est basée sur la nécessité et l'instinct grégaire. Là, ce sont des créatures qui vont perdre les visiteurs pour les tuer ou qui vont juste vous faire perdre vos clés.
Bon, mais ça se chasse facilement quand même.
Et bien alors là, on ne sait pas trop ce que c'est. Dans ce monde, dans cet univers-là, les Grendel, ce sont des créatures qui ont été créées, des sortes de gardiens automatiques qui ont été créés par une race extraterrestre bien antérieure à l'humanité et qui existent sur toutes les planètes que l'humanité va essayer de coloniser. Et comme elles ne reconnaissent pas l'humanité comme étant une race, leur race, elles les considèrent comme des intrus et vont donc les chasser. Il y a donc des chasseurs de Grendel qui sont là pour sécuriser les planètes sur lesquelles l'humanité s'est posée. Ça ne pose pas trop de problèmes, mais on n'a pas vraiment de discussion exacte de ce qu'est les Grendel, car on parle beaucoup d'informatique. On est vraiment dans un univers où il n'y a pas de référentiel connu. Vous n'êtes pas dans un Star Wars, un Star Trek, un Stargate et tout ce qui va être avec des stars, Battlestar par exemple. Non, vous êtes dans un univers qui emprunte tellement à la mythologie et à la cosmogonie nordique et à ce que les Canadiens peuvent vivre, puisque Rich Larson est Canadien, qu'il n'y a pas de référentiel. Et d'ailleurs, ça a été tout le travail qu'a fait Pierre-Paul Durastanti, d'arriver à traduire un roman où la moitié de ce qui est écrit en anglais n'a pas de référentiel en français.
Ah oui, quand même.
On n'est pas très loin d'un Pratchett ou d'un Harry Potter, où les objets que vous portez, enfin les vêtements que vous portez, les objets que vous allez toucher, votre moyen de vous déplacer ou d'interagir n'existe pas. Et donc les créations, les néologismes anglais n'ont pas d'équivalent en français. On a par exemple sous nos pieds, ça se voit, nous on a une moquette. Chez eux, ce sont des mousquettes, parce que ce n'est pas de la laine, c'est du végétal, mélange de mousse et de moquette. Plein de choses comme ça. C'est très intéressant parce que c'est un vrai travail où on sort de tout le référentiel connu. La seule référence que vous pourrez retrouver, mais celle-là, il faut la chercher, c'est Yorick. Yorick est un frère, une famille qui s'est déchirée et qui se réconcilie par nécessité, mais qui va de nouveau se déchirer. C'est Shakespeare. Et d'ailleurs, Yorick est un personnage de Shakespeare. Le roman est très intéressant à partir du moment où vous acceptez de lâcher tout ce que vous connaissez pour rentrer dans un autre univers qui emprunte tellement à la mythologie nordique que vous faites à la fois un saut dans le passé et un saut dans le futur. Je vous encourage à le lire et je vous laisse sur une musique du groupe.
Ouais, attends, parlons un petit peu de la couverture là, non ?
Oh, mais j'ai pas envie de parler de la couverture.
Bon.
Elle est belle. Mais ouais. Le problème, c'est qu'à la radio, elle peut être aussi belle que possible, elle ne sera pas visible. Alors, la couverture a été faite par Pascal Blanchet.
Ok. Bon, bah Pascal, si tu nous écoutes.
Sache qu'elle est très belle.
Je ne sais pas qui
alors,
c'est.
Alors, la couverture représente trois cosmonautes qui sont à la surface de Ymir. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais on ne peut pas vivre à la surface, il fait trop froid. Ah. Donc, les villes sont souterraines. Et là, donc, ce sont trois cosmonautes qui sont à la surface au milieu de la neige, face à une sorte de cadavre d'un autre spationaute, mais aux proportions tellement gigantesques qu'il ressemble plus au géant des mythologies nordiques qu'à un être humain.
Il y a un grand soleil rouge un peu, non ? Je sais pas, c'est peut-être juste le lettrage.
C'est effectivement le soleil rouge de Ymir.
Ah. Ok, bon, alors tu disais, on va s'écouter un petit peu de musique qui fait référence à la mythologie nordique aussi, parce que là, je vois que c'est un groupe français et je comprends pas du tout ce qu'il raconte.
Exactement, c'est le groupe Skald. Alors, le groupe, les Skalds.
Ouais, c'est quoi déjà?
C'est comme les Aedj, les Grecs. Ce sont à la fois des chanteurs, des poètes et des sages. Oui. Ce sont les troubadours.
Des bardes.
Des bardes, exactement. C'est l'équivalent qu'il y avait chez les Celtes. Donc, ce sont les Skalds chez les Nordiques. Ce sont ceux qui ont en charge la perpétuité de toutes les mythologies, puisqu'il n'y avait pas de traces écrites. Tout était à l'oral. Il fallait chanter. Et c'est un groupe français qui ne chante qu'en vieux norrois, donc ni en islandais, ni en danois, suédois, norvégien. Donc c'est une langue qui est encore utilisée, mais seulement un peu comme du latin classique. Ce n'est pas une langue morte, c'est juste une langue désuète. Et donc ils chantent sur ce type de musique. Je vous laisse écouter.
Et on s'écoute le morceau Grotti dans Imaginaire sur le 100.5. Non, mais ça va plus du tout. Qu'est-ce qui se passe ?
Mission maudite.
Ouais, vraiment. Ce morceau ne dure qu'une minute 15, en fait, apparemment.
Alors non, il dure beaucoup plus longtemps que ça. Mais...
Bah non, je sais pas, ça s'arrête et tout, là. Bon, et en plus, on n'a pas de nouvelles du voyageur solitaire.
Non.
Un petit peu trop solitaire, là, pour venir dans notre émission de radio. Bon, écoute, allez, on va s'écouter son premier choix musical. On va voir si cette chanson-là, on arrive à l'écouter en entier.
On va voir.
C'était Simple Minds.
Ouais.
Simple Minds, c'était le choix de voyageurs solitaires que nous n'avons toujours pas réussi à joindre. Il va être temps, parce que bon, l'émission s'arrête dans 25 minutes.
Il s'est peut-être perdu.
Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre, d'ailleurs, Sébastien, où tu comptais le faire quand on l'aurait au téléphone ?
Plutôt quand je l'aurai okay. au téléphone.
Bon, alors Pierre-Marie, toi, il paraît que tu viens de lire quelque chose qui est une exclusivité qui sort dans 2 jours.
Alors, oui et non.
Ok.
Oui, j'ai reçu une exclusivité. Non, je ne l'ai pas tout lu, mais à moitié, puisqu'il s'agit d'une intégrale qui vient de sortir, qui s'appelle Les Galaxiales de Michel Demuth. Ça te parle ?
Ouais, ça me dit quelqu'un. C'est le monsieur qui a traduit Dune.
Exactement.
Hey.
Bravo, mais pas que. C'est le traducteur de Dune, de Frank Herbert, de 2001, L'Odyssée de l'espace, d'Arthur C. Clarke. Il a aussi traduit Elric le Nécromancien, de Moorcock. Je ne sais pas si ça te parle, c'est une petite œuvre pas très très connue.
Ouais, je crois qu'on en a fait un jeu de rôle.
Et des BD. On a d'ailleurs eu scénariste et illustrateur qui était venu à notre salon. Je ne sais pas si tu te souviens, de Julien. Mm. À côté de lui, Hugo Bellagamba. Ça te parle ?
Ouais, c'est l'ancien président des Utopiales. Hein.
Et c'est un auteur historien. Mm. Christian Léourier.
Ouais, qu'on a interviewé dans cette émission. Il est venu au Salon Imaginaire ?
Non, il aurait dû venir, mais pour des soucis de raison de santé, il n'était pas venu. Ouais. Il a été édité chez Critique et chez Argile. Olivier...
Oula, non, je suis en train de mettre le feu dans le studio, mais c'est bon.
Souffle dessus, s'il te plaît. Olivier Berenval, qui a sorti quelques romans chez Critique aussi. Richard Canal, ça te parle ?
Très vaguement.
Science-fiction des années 90-2000.
Ouais. Moi, j'étais pas
chez
né.
Mnemos. Oui, tu n'étais pas né, bien sûr. Joël Wintrobert.
Ouais, à qui on vient de remettre le prix ailleurs d'un imaginaire.
On vient, c'était il y a 6 mois, mais oui.
C'est la dernière à qui on l'a remis, en tout cas.
C'est ça. Et qui revient cette année pour le transmettre à quelqu'un d'autre.
Ouais, dont on ne vous dira pas qui c'est.
Jacques Barbery.
Ouais, il n'est pas venu à Angers mercredi dernier avec le groupe d'Alain Damasio, là, je ne sais plus comment il s'appelle.
Si, c'est ça.
Barbery qui traduit de l'italien, ce monsieur, notamment.
C'est ça. Ouais. Serge Lehmann.
Ouais, eh bien.
Et Philippe Druyer, ça te parle, aussi. Philippe
voilà,
Druyer
oui, bien sûr.
Franchement,
on ne présente plus ces gens-là.
Alors, à côté d'eux, il y a des noms que, pour le coup, je ne connaissais pas et que je n'ai pas lus. Dominique Warfa, Jean-Jacques Girardot et Richard Combalo. Si je vous donne tous ces noms-là, c'est parce qu'ils ont écrit des nouvelles de Michel Demuth. Ils ont écrit des nouvelles de Michel Demuth. Intéressant, non ? Alors, je vous explique un petit peu.
Ouais.
Michel Demuth, en plus de traduire, il avait une idée. Il voulait faire que la science-fiction soit un genre majeur. Et surtout, il voulait que la science-fiction française soit un genre majeur. Et il a créé un périodique qui s'appelait Galaxy.
Ah oui.
Il y a très longtemps. Et dedans, il y faisait paraître des nouvelles, en plus de traduire d'autres nouvelles. Et il devait faire 25 nouvelles. Il n'a pas pu. Il est mort avant. Il est mort en 2006, de mémoire. Il en a écrit que...
Oula.
Merci. Ah, j'entends mieux ma voix. Oh, mais quelle voix. J'aime cette voix.
Non, mais je découvre plein de choses sur cette nouvelle table de mixage, c'est trop beau.
Ok. Si tu veux, après je chanterai parce que j'aime m'entendre comme ça.
Bah oui, t'as dansé déjà tout à l'heure, donc...
Je peux continuer sur mon roman
maintenant.
Enfin, sur mon roman, sur mon anthologie. Mais... Et donc, il a écrit 19 nouvelles en 15 ans avant de mourir. Et Olivier des éditions du Bélial a décidé de décrire l'intégrale de ses nouvelles et de mener à bien son projet. Et il a demandé une dizaine d'auteurs qui étaient des amis de Michel Demuth, qui ont travaillé avec lui, mais qui étaient d'abord ses amis, d'écrire des nouvelles de Michel Demuth, les nouvelles dont on avait les brouillons et dont on n'avait jamais eu toutes les nouvelles. Donc il y a pas mal de nouvelles qui sont des nouvelles coécrites, à la fois avec Michel et puis Hugo Bellagamba, par exemple. Et puis d'autres qui ont écrit tout seul, je pense notamment à Joël Wintrobert, mais dont les nouvelles étaient parues dans Galaxy. Les éditions du Bélial ont donc décidé de sortir ce roman-là en intégrale. C'est une deuxième édition, puisque la première fois que les Galaxiales, qui ne comprenaient que les nouvelles de Michel, étaient sorties en 77, il avait été récompensé par le Grand Prix de l'Imaginaire. C'est une œuvre que je ne peux que vous conseiller de récupérer, puisque sur 19 nouvelles, nous voyons passer 2000 ans d'histoire. 2000 ans qui vont des années 2000 aux années 4000. L'humanité qui évolue. Dans les années 70, il imaginait ce que serait la vie dans les années 2000. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il imaginait, mais on a encore une chance de se rattraper pour les années 4000. Je vous conseille de le lire, je vous conseille de l'acheter, je vous conseille de découvrir Michel Desmousses si jamais vous ne le connaissez qu'au travers de sa traduction, car malgré tout, il a fait en sorte que pas mal d'auteurs de science-fiction française soient traduits aux États-Unis après avoir traduit tant d'auteurs américains en français.
Bon, musique, maestro. Est-ce qu'on se remet un morceau de Scald alors? On va alors, partir de leur page YouTube directement.
Alors, je vais te donner le nom de la musique de Scald qu'il faut absolument que tu m'aides, parce que j'ai hésité entre les deux et tu m'as pas laissé le choix, sache-le. Je te le retrouve, j'arrive. Reste calme.
Je peux pas vous les lire, c'est écrit en ancien norrois.
Il faut que tu mettes la musique Willemann, Og Magnhild.
Bah merde alors. Ah ça y est, ok, je vois.
Je te remercie.
Je crois que je vois de quoi tu parles. Ah, on aura aussi des pubs.
Ah ça, je suis
tu peux chanter par-dessus.
Non, je suis sûr que c'est pas cette musique.
Je la passe. Mais si, c'est ça.
Ah bah parfait.
Voilà. Merci YouTube.
For der Rinner, ne der ist der Anna Winne. Will man jenge, was römmen ist da? Hey, Vogras, der Rinder, ey, wie alle. Mester, künne, angelor, paslo. For der Rinner, ne der ist der Anna Winne. Das Rohan sie arpet ihr Bons in sie Arm. Hey, Vogras, der Rinder, ey, wie alle. O Gud, wie ne Kraft, die auf Tröllen es Arm. Vor die Rinder, ne, der ist der Anna Winne.
Je vous laisse un petit peu la neige qui tombe dans l'univers de Scald. On était en train de se dire que le compositeur de Scald, eh ben je crois que c'est le même qui fait les musiques de Flavien qu'on a reçu dans cette émission.
Qu'on avait interviewé, tout à fait.
Flavien l'Elfe qui a sorti un album
il y a pas très longtemps,
de musique elfique, oui. Voilà, ouais, que vous trouvez dans les bonnes fromageries d'albums.
Merci.
Je donne pas de nom de magasin. Déjà qu'il y a une pub qui m'a glissé sous le nez, là. On allait vous parler un petit peu, en attendant un coup de fil.
Des activités
voyageurs solitaires, on n'y croit plus trop. Ouais, les actualités de l'association.
Alors, pas les actualités, les activités.
Ouais, mais c'est un peu aussi notre actu. Parce qu'il faut qu'on bosse dessus quand même. Hein.
Oui, oh, ça dépend. Alors, la prochaine échéance à laquelle on vous attend nombreux et nombreuses et dynamiques, c'est une intervention, présentation, coup de cœur et prix littéraire qui se passera à la médiathèque Toussaint le jeudi soir 8 décembre de 19h à 21h. Alors, c'est 19h à 20h et après, il y a des échanges autour d'un verre de l'amitié sans alcool, puisque médiathèque Toussaint.
Et que personne ne boit de l'alcool dans l'association.
Ouais, mais alors, en plus, il n'y a pas d'alcool.
Mais venez quand même, c'est gratuit.
Donc nous allons vous présenter les romans français et étrangers ayant reçu des prix littéraires et vous présenter les prix qui ont remis ces romans, qui les ont remis.
On va les présenter un peu les prix aussi. Qu'est-ce que le Hugo, le Nebula, le Locus
Alors ça, c'est ton boulot, je t'en prie.
Ok, ça marche. on parlera aussi du prix du livre-jeu. Hein.
Oui, qui est tout nouveau depuis 2021 que ça existe.
Et qui est remis au Festival international du jeu de Cannes.
Festival international du jeu de Cannes en février. Donc là, j'aurai l'opportunité d'en présenter un, donc pour une première en bibliothèque. Sombre ressac, le voyage d'Aria en Osmanli de Fibre Tigre.
Et qui fait partie d'une trilogie, hein, il me semble. Fibre Tigre qui a inventé tout un univers. Il y a du jeu de rôle, voilà. Et puis à côté, il y a des
livres-jeux tirés du jeu de rôle.
Ouais. Tout ça chez Eldercraft. Et ce livre qui a été primé aussi l'année dernière, enfin, qui a reçu un prix là en 2022.
Ah non, en 2021. En fait, il a concouru.
Il a reçu le prix en février 2022 pour l'année d'avant. Ok. On présentera peut-être aussi quelques auteurs angevins qui ont un peu d'actu dans la SFFF ces derniers temps. Les plus productifs, on va dire.
J'avance puisque le temps avance aussi et qu'on ne peut pas trop dépasser.
Mais si, on peut.
Alors, les prix qu'on va présenter, je fais les prix français, je te laisse les prix anglais parce que bon, les anglais. Le prix Utopiel, c'est le prix de Imaginaire Utopiel remis lors des Utopiels. C'est un prix public parce que le jury est composé de 4 lecteurs tirés au hasard et est dirigé par un auteur ou en tout cas un acteur de l'imaginaire. Il récompense par contre que des romans français puisque il y a plusieurs catégories, la catégorie français, la catégorie étranger, la catégorie jeunesse. Et puis voilà. Le prix Julia Verlanger, ce qui se remet aussi lors des Utopiales, est un prix plutôt pour une traduction, même s'il y a des Français qui sont récompensés. Mais Julia Verlanger était en fait un pseudonyme. Non, c'était son vrai nom. Ouais. Elle avait un pseudonyme lorsqu'elle écrivait, mais je ne me souviens plus de son nom.
Non, mais je crois que c'est aussi un pseudo.
Oui. Elle avait des pseudos pour ses pseudos ?
Il me semble. Elle avait écrit sous le nom Gilles Thomas aussi.
Oui, c'est ça. Moi, je connaissais Gilles Thomas.
L'autoroute sauvage, quoi. Oui, c'est ça. Un peu un classique du roman post-apo français, qui a été adapté en BD, d'ailleurs, il y a quelques années.
Et à l'image du prix à Heyerdahl, le prix Julia Verlanger est remis par le précédent récompensé. Les GPI, les Grands Prix de l'Imaginaire, ce sont des prix de l'Imaginaire, c'est un des plus anciens prix de l'Imaginaire qui est maintenant remis lors d'Étonnant Voyageur à Saint-Malo.
Ouais.
Et qui est composé par 6 personnalités du monde de l'Imaginaire, présidées par Jean-Luc Rivera. Anciennement l'organisateur des rencontres de l'imaginaire de Sèvres. Les prix imaginal, roman français ou roman étranger, ce sont des prix qui sont liés au festival imaginal, à savoir comment est-ce que ça va à Épinal, à savoir comment est-ce que ça va continuer à œuvrer.
Avec le changement
d'organisation, okay. En tout cas. Il va y avoir toujours le prix imaginal roman français, roman étranger. Il y a assez peu de doutes sur le fait que ça continue, mais il y avait aussi un prix qui était destiné par les bibliothécaires, et puis un prix jeunesse, à voir comment est-ce que ça va continuer. Donc là, ce sont 2 prix qui sont remis en mai, alors que le GPI, le Utopial Verlanger, ce sont des prix qui sont remis en septembre. Ce qui veut dire, en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que les dates de concours ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas sur des années complètes, mais sur des années tronquées. Pour le prix Utopial, c'est des romans qui ont été sortis entre novembre et octobre, donc à cheval sur les années civiles. Donc en fait, il peut y avoir des romans qui ne peuvent pas concourir au même prix, alors même qu'ils sont sortis à 2 mois d'intervalle. Pour les prix, donc le prix du livre-jeu, tu en as parlé. Qu'est-ce que le Locus ?
Faut venir à la soirée. Hein.
Merci. Moi, je connais que le prix Nebula, le prix British SF. Alors, le Locus,
il y a le prix
pas.
Hugo aussi. Locus, il y a peut-être des sous-catégories aussi. Je pense que j'allais vous présenter un roman primé horreur.
De mémoire, le prix Hugo, en fait, il récompense. Il n'y a pas de catégorie dedans, puisque je me souviens que V pour Vendetta avait reçu le prix Hugo. Il n'y avait pas que des romans qui pouvaient conquérir dessus, et donc les romans graphiques, puisque V pour Vendetta était un roman graphique, concouraient au même niveau que les prix littéraires.
Ok. Il y aura le British Fantasy Award aussi, dont je vous présenterai peut-être un roman qui a été récemment traduit. On va présenter que des trucs qui ont été traduits en français depuis quand même.
Hugo, Locus et Nebula, ce sont des prix américains, mais le British est un prix anglais.
Et puis, éventuellement, je n'ai même pas regardé, mais il y a le prix Shirley Jackson aussi qui représente, qui récompense un roman d'épouvante. Voilà.
Un des prix les plus difficiles à présenter, c'est aussi le prix Masterton, qui pourtant a été très très connu en fantastique, mais qui a des sélections 4 ou 5 fois dans l'année. Et donc, à la fin, ils sélectionnent quelqu'un. Ils le font en plusieurs étapes. Parce qu'il y a tellement de production sur le prix Masterton. Ils récupèrent tout l'imaginaire ensemble. Et n'importe quel roman peut concourir. Mais par contre, il n'y en a qu'un seul par maison d'édition.
Ok. On pourrait parler du prix Rony Aîné aussi ?
On peut parler du prix Rony Aîné qui est donné au moment de la Convention nationale de science-fiction. Alors, le prix Rony Aîné, il y en a deux. Il y en a un pour la nouvelle et un pour le roman. Et en fait, c'est aussi un prix de lecteur, puisque les soumissions, c'est le BDFI, qui est un organisme BDFI, base données française informatique. En fait, il récupère de la part des éditeurs des listes d'inédits. C'est un prix qui récompense que les inédits. Les poches ne pourront jamais être sélectionnées là-dedans. Et après, une fois par an, pendant 3 mois, c'est ouvert. N'importe qui peut se connecter et donner une sélection de 5 romans et de 5 nouvelles pour qu'ils reçoivent le prix. Les 5 romans et les 5 nouvelles ayant reçu le plus de votes seront présentés lors de la Convention nationale de science-fiction. Et toute personne qui se rend à cette convention peut voter pour le roman ou la nouvelle parmi les 5 sélectionnés. Cette année, c'était à Bergerac. De mémoire, l'année prochaine, ça se passe à Nice.
Ok. Bon, et puis donc, l'autre événement auquel Imaginaire va participer, ce sera Langer Geek Fest qui vient d'ouvrir sa billetterie.
Il y en a un entre les deux. On parlait du 8 décembre.
Il y a la nuit de la lecture aussi.
Exactement. On parlait du 8 décembre. Donc c'est la présentation des romans coup de cœur et prix. Là, on a parlé que des prix, mais en fait, on va aussi présenter nos coups de cœur qui ont moins d'un an de parution. Le 21 janvier, il y a la nuit de la lecture à laquelle Imaginaire participe en proposant un quiz sur le thème de la peur.
Ouais, c'est le thème qui a été retenu au niveau national, je crois, à Angers. La nuit de la lecture, ce sera probablement limité au samedi 21 janvier. Ce sera encore à la médiathèque Toussaint. On en profite un max avant qu'elle ferme ses portes pour rénovation pendant longs mois. Et puis, on vous refera un petit, même blind test, je dirais, un peu comme la dernière fois, parce qu'il y aura aussi de la musique sur le thème de la peur à retrouver, des questions vitesse. Et puis, j'animerai aussi probablement une partie de Monstre, le jeu de rôle tiré de l'univers partagé de Johan Svar, voilà.
Et avant les Angers Geek Fest, nous animons une deuxième session d'initiation au jeu de rôle à la médiathèque Hervé Bazin, si je ne me plante pas du nom, à Trélazé.
Exact. Un dimanche matin, je crois.
Un dimanche matin, c'est le 12 mars.
Un dimanche matin, nanana.
De 10h à midi, mais ce sont des jeux de rôle qui seront axés sur l'écologie.
Ouais, tout à fait.
Donc, si jamais vous êtes intéressé par l'écologie et le dérèglement climatique et le jeu de rôle, n'hésitez pas à venir faire un tour. Inscription gratuite, mais sur inscription quand même, puisque nous sommes limités à 4 joueurs par table, 2x4. Et enfin, l'Angers Geek Fest, 1er et 2 avril 2022, où Imaginaire aura son stand et animera 2 tables rondes. Une table ronde steampunk, cyberpunk, et une table ronde la moralité dans l'utopie et la dystopie.
Voilà, qui sont les thèmes en fait
de ce Geek Fest. En fait, de toute l'année pour les Geek Fest.
Les Geek Fest, ouais.
Il y a Bordeaux Geek Fest, Angers Geek Fest, Mangasia et j'ai perdu le dernier nom.
Bon, ça fait déjà pas mal de choses dans l'agenda. Qu'est-ce que je voulais ajouter, moi, beaucoup plus proche que nous? Alors, samedi, je disais que la bibliothèque Toussaint allait rentrer en travaux. Donc, une partie de leur livre va être accueillie par toutes les bibliothèques de quartier de la ville d'Angers. Et donc, afin de faire de la place, ils font une braderie ce week-end. Donc, n'hésitez pas, samedi, allez, ce sera vers les Justices, aux Trois Mâts. La Bibliothèque des Justices va rassembler et vendre plein de bouquins. Il y aura aussi des CD. Il y aura aussi une vente de jouets organisée par les Trois Mâts. Donc ça, c'est samedi. Et puis voilà, avant ça, vendredi soir, une soirée bien bien rock au garage. Donc je propose qu'on termine l'émission en écoutant les Nantais de Crèvecœur, qu'on pourra écouter là-bas vendredi, avec le morceau qui s'appelle Erdre. Donc,
comme le cours d'eau.
Voilà, comme cet affluent qui passe pas loin d'ici.
Ah non,
on se retrouve dans deux semaines sur le 101.5 pour Imaginaire. On espère qu'on aura un voyageur solitaire avec nous cette fois.
Un retour sur le slasher dont vous appelez Hero, joué sur Twitch.
Et puis, les voix du scénarium dans quelques minutes sur Radio G. A plus.
Salut.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.